Vous écoutez
RMC. RMC, le Mosca.
Rafael Nadal sera-t-il présent à Monte Carlo? Vincent, s'il n'y est pas, on va être très inquiet sur la suite de sa carrière. Le tournoi démarre dimanche et il voulait être présent le plus tôt possible. Eric Salio, nous sommes mardi. Est-il arrivé à Monte Carlo?
Bonjour, toujours pas de trace de Rafael Nadal sur les cours du Monte Carlo Country Club. C'est assez étonnant dans la mesure où, je vous l'avais dit dans le Moscato Show il y a 3 semaines, j'avais rencontré David Messé, le directeur du tournoi. Il nous avait assuré qu'après avoir rencontré l'Espagnol à Indian Wells, que celui-ci, donc Rafa, arriverait très tôt sur le rocher pour préparer au mieux son retour sur le circuit. Il avait même donné la date du 1er avril. Alors, simple contretemps, changement de programme. C'est dur de connaître la vérité. On va pas céder à l'affolement, d'autant que la rumeur bruisse qu'il débarquerait demain. En tout cas, il n'a disputé que 3 matchs officiels en 2024. Monte Carlo est une balise importante dans l'optique de Roland Garros. Et puis, je vais vous parler du tirage au sort parce qu'il peut s'annoncer piquant. Il faut savoir que seules les 8 premières têtes de série sont exemptées du premier tour. Et comme personne ne manque à l'appel, ça veut dire que le 9e mondial pourrait être proposé à Nadal. Et le 9e, c'est tout simplement Grigor Dimitrov. Mais je peux aussi évoquer le 12e, un certain Stefanos Tsitsipas. Vous imaginez le truc?
Dès le premier tour, donc, en fait.
Dès le premier tour.
Dès le deuxième tour, mais l'entrée en lice de Nadal.
Il n'y a pas de passe droit pour Nadal, tu vois, Vincent?
C'est chaud. Hein. Non, c'est vraiment chaud, là. Hein.
C'est dur, parce que c'est dans combien Roland Garros? C'est moins.
Un mois et demi.
C'est quoi? C'est le 6 mai?
Fin mai.
Écoute-moi, je pense que c'est dur, hein, c'est dur de le voir partir, mais là je sens que ça sent quand même.
Et ce sont les dernières chances.
Ça sent le fouet.
La mécanique.
Ça sent le fouet. Il va rentrer à l'écurie.
Ouais.
Le fait, il va rentrer à l'écurie, c'est fini.
Mais qu'est-ce qu'il va faire à l'écurie?
C'est fini. Il va faire du gras.
Qu'est-ce qu'on fait à l'écurie?
À l'écurie,
on
perd des cheveux aussi.
Il y a deux choses sûres, il finira pas ruiné. Non, mais ça. Comme dit Vincent, on a du mal à l'intégrer quand même, qu'il n'y ait plus
d'attaque. Oui, mais ça nous fait de la peine. Là, tout le monde s'accroche. Regarde le pauvre Eric Salio, il a des sanglots dans la voix, il est là.
On s'est déjà fait l'idée depuis un an.
Pas vraiment.
À part le pauvre Stifoulet qui était passionné, qui est un fan. Ouais. Mais quand t'es fan, t'es naïf, tu veux toujours que le mec. Ça dure tout le temps. Et donc, mais autrement, on sait bien que c'est quand même un peu la fin, ça fait 2 ans. Il enchaîne les blessures, le pied, le genou, et la tête, l'alouette. Alouette, j'ai dit alouette.
Donc Pierrot, on a perdu Vincent.
Je ne peux plus me mourir la tête.
Très bien, alors on en reparle bien sûr dans la semaine avec Eric Salio. Merci Eric. On zappe. Alors un mot de Top 14 et un mot d'une légende du rugby. Vincent, Sam Whitelock a annoncé qu'il arrête à la fin de saison. Il est arrivé à Pau après la Coupe du Monde, donc il n'aura fait qu'une demi-saison, disons deux tiers de saison. 153 sélection avec les All Blacks.
Il devait rester deux titres mondiaux.
Il devait continuer. Et 11 rugby championship. Voilà le palmarès. Les plus grandes lignes du palmarès. Bonsoir. Mais pour Pau, c'est un peu dommage qu'ils aient
passé en plus. Il aurait continué, peut-être qu'il aurait gagné un titre.
Il avait signé un contrat.
Il a du mal à s'adapter, je trouve, au top 14.
Et il paraît qu'il a du mal à s'adapter même à la vie en France. Un dépaysement pour lui. Il avait signé Philippe jusqu'en juin 2025.
Tout à fait.
Donc c'est une surprise.
Il a du mal à s'adapter.
Mais au début, il s'est adapté. Il était content et tout. Il était heureux.
Il a dit qu'il était content. Après, tu sais jamais comment ça se passe.
Moi, je pense que c'est le rugby.
Il a mal partout, peut-être.
Il a la barre.
Et puis, je pense que le top 14, lui, il avait l'habitude de jouer 20 matchs par saison.
Il n'a pas l'habitude de
jouer tous les week-ends comme ça. Et je pense que c'est trop dur. Et il rentre à la maison. Voilà. Il fait les bagages.
Imagine Vincent, sa carrière, 4 Coupes du Monde jouées, 3 finales, dont 2 gagnées.
On parle
de joueurs qui jouent devant.
Lui, il arrive de la Cambrousse, à Pau, ça doit pas le dépayser quand même, parce que là-bas, il est quand même en pleine campagne et tout, non? Il doit avoir une maison.
Mais c'est l'enchaînement des matchs.
L'enchaînement des matchs. 153 sélections.
153, c'est entre 5 et 6 saisons de joueurs.
Attends, Denis, lui, il jouait plus pour les All Blacks qu'il jouait pour sa province. Il y avait une structure qui était différente.
Mako, il avait arrêté pendant 8 mois, je crois, Les mecs, c'est des boxeurs. Ils ne jouent que pour les Néo-Zélandais. Ils ne font pratiquement pas de matchs en province. Ils font 10 matchs en province, c'est bonsoir 40. Hein.
Alors, on zappe le rugby et Sam Whitelock pour en venir à l'actu olympique.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
On continue le feuilleton du porte-drapeau de la délégation française, puisque ce matin, dans la matinale d'RMC, chez Apolline Matin, c'est Nicolas Karabatic qui a donné ses favoris pour être porte-drapeau de la France.
Du côté des garçons, c'est vrai que j'ai une petite affection pour Flo Manodou et Renaud Lavillenie, qui m'ont fait vibrer et que j'ai côtoyé, qui incarnent vraiment l'esprit olympique et les valeurs olympiques et qui sont en plus très sympas.
Ouais.
Et côté des filles, je me disais pour innover un peu, parce qu'on veut innover, pourquoi pas mettre un collectif en avant et du coup les handballeuses, et par le biais des handballeuses, le handball, donc derrière leur capitaine, faire peut-être mettre en avant un collectif et notre sport en avant aussi, et les sports courts en avant qui ont tellement brillé à Tokyo.
Tu aimes l'idée, Vincent, d'une équipe de sport court pour être porte-drapeau?
Oui, non, mais là, c'est pas Jacques Martel, hein, c'est pas tout le monde à dire.
C'est arrivé déjà, non?
C'est qu'il y a une personne.
C'est arrivé déjà,
c'est
la vaste.
Non, mais je le comprends.
C'est l'équipe, la vaste olympique, l'équipe canadienne de hockey.
Il parle de son sport, je le comprends, mais voilà, c'est normal. Il faut
n'importe
quoi. Il parle comme ça, mais après.
Non, ça te plaît pas.
Non, il faut d'abord Méline Michon, et puis voilà. Anna Simone. Et avec
Méline Michon, tu connais?
Non. Mélina
Robert-Michon.
J'avais oublié Robert. Donc voilà, donc Mélina Robert-Michon, qui est une fille admirable.
La lanceuse qui, de poids.
Qui a fait 7 disques. Qui a fait 7 Jeux Olympiques. 7 Jeux Olympiques. Arthur Minon, lanceuse de disques. Les disquaires ne sont pas souvent à la mode aux Jeux Olympiques. Pour une fois qu'on a une disque jockey.
Il y a un truc très simple que je trouve passe un peu à la trappe. Ils m'ont fait rêver. La Villénie et Manodou. C'est ça, en fait, qu'il faut.
Oui, ben,
il faut un mec ou une nana qui a fait rêver les Français, tout simplement.
Absolument. Moi,
les autres critères sont secondaires.
Moi, j'ai la Villénie.
Même s'il ne fait pas rêver, qu'elle t'inspire le respect. Et Mélina, Robert Michon t'inspire le respect.
Ouais, mais
c'est
bon,
la sobriété. Ça, c'est une fille.
Rêver.
Et tu choisis entre Manodou. Mais c'est l'olympisme. C'est Manodou.
C'est l'olympisme.
Faut arrêter de faire rêver. Voilà, faut aussi rêver.
C'est exceptionnel, quand même.
Faut récompenser.
Et elle a été maman. Et elle est revenue.
Voilà,
ce qui est assez exceptionnel.
Il a raison peut-être sur un point. Il a raison sur un point, c'est que les sports collectifs ont ramené d'énormes médailles très importantes à la France, aux JO. On a la culture du sport co aux JO, nous, en France.
Oui, non,
s'il n'y a pas le handball féminin ou masculin, le volley, il nous rapporte des médailles. C'est l'histoire olympique, le handball aux JO.
Tu
mets l'équipe avec plein de drapeaux.
Et pourquoi pas?
Ouais, monsieur,
le capitaine sur le drapeau. Mais non, l'olympisme, c'est pas les sports co, c'est l'athlétisme. Avant tout,
c'est l'athlétisme. C'est pas le basket. Philippe, pourquoi il veut Mélina? Parce que comme Mélina, Vincent, il a eu des enfants, il s'arrêtait quelques mois pour s'en occuper et il est revenu ensuite à sa carrière.
C'est le modèle pour moi, oui. Mais parce que je sais ce que c'est que se lever la nuit et changer les couches après le caca. Voilà, je le sais.
C'est un bon père, Vincent. Bravo, Vincent.
Jamais le faire avec les petits-enfants parce qu'autrement, s'ils s'y habituent, tu les ramènes.
Mais quand tu
les ramènes tous les week-ends,
prends-moi avec les petits-enfants tous les week-ends.
La dernière fois, je laissais 6 heures avec la merde au cul.
Non,
mais dis donc. Alors,
l'avantage pour l'instant, c'est quand il rentrait, il voyait ses gamins au petit déjeuner.
Voilà. D'accord. C'est vrai que toi, t'as un exemple de père de genre à peine. Tu vois, un peu vieux, quoi, tu t'occupais de tes filles, crois-moi. Et d'ailleurs, elle en a encore un peu lourd sur la conscience, tes filles.
Alors, on zappe.
Va nous parler, je t'en parlerai.
Regardez une minute pour un sujet très sérieux, Vincent. Le long témoignage de Raphaël Varane dans l'équipe sur les commotions dans le football. Il décrit notamment une commotion face au Nigeria à la Coupe du Monde 2014. Il dit, si quelqu'un m'avait parlé à ce moment-là, je ne sais même pas si j'aurais été capable de lui répondre. Une autre commotion avec le Real qui a engendré une fatigue intense dans les jours qui ont suivi, mais il ne savait pas quelle en était la cause, et des problèmes de concentration lors du match suivant qui l'ont fait passer complètement à côté de la rencontre. Et il évoque la difficulté de parler de ça dans le football parce qu'il dit il faut être dur au mal, c'est pas quelque chose qui est bien accueilli.
Ça se trouve Ribéry, c'est ça, hein.
Non mais son témoignage est glaçant, hein, quand même. Il dit ce qui est intéressant, vous les sportifs qui faites des sports de combat, il dit moi c'est pas un sport de combat le foot, ce que raconte Pirot. Raphaël Varane dit
mais
trois jours avant le match, je n'osais pas dire que j'étais mal, si tu veux. Mm. C'était un peu tabou, ça ne se disait pas. Oui. Parce qu'il avait pris un coup de tête, peut-être sur le match la veille.
C'était tabou il n'y a pas longtemps. Tu prends le ballon, les mecs qui te font des têtes, tout ça, les ballons pleins de
bradés. C'était tabou il n'y a pas très longtemps. Bien sûr, c'est un sujet, ça.
Non, mais ce qui est intéressant, il dit son fils joue au foot et il lui demande de ne pas faire de plus tête, que 6 ou 7 têtes par entraînement.
Il dit qu'il faut limiter le jeu de tête chez les enfants.
Par contre, il travaille avec Philippe Malafosse, qui est un docteur de Montpellier. Moi, j'ai travaillé pendant 5 ans avec lui. Et ce qui est incroyable pour moi, c'est qu'au foot, sur chaque match, il devrait avoir un docteur indépendant. Et si jamais il y a un chaos.
Comme au rugby,
ouais, le joueur sort et ne revient pas sur le terrain. Et ça, c'est incroyable que le foot, qui est le sport numéro 1, le sport avec le plus de moyens, ne fasse pas ça. Mais alors, c'est assez incroyable.
Ouais, alors attention, sur le protocole commotion, il faudra poser des questions beaucoup moins compliquées quand même. Parce que si tu prends les mêmes questions que Rubi, tu vas penser que tous les mecs sont sonnés.
Par contre, il y en a un qui n'aura pas de mal
à la tête, c'est pas
pire.
Par contre, là où t'as aucune commotion. Là où t'as aucune commotion, je veux te dire, c'est dans les équipes de corner. Les mecs avec les cornes, ils ne peuvent pas. Le premier ballon, ils le crèvent. Donc après, il n'y a plus de tête dans la partie.